de réjouir vraiment pour partager ce Seigneur mis sur mon cœur, ça fait un bout de temps. Et voilà, donc je voudrais vous parler aujourd'hui de oser rêver avec Dieu. Et bon, vous savez bien hein, que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés notamment avec cette capacité de recevoir ses pensées. C'est un Dieu de relation. Et donc ces pensées, ben ça peut être un avertissement quelquefois, ça peut être une révélation, ça peut être des instructions à suivre, ça peut être tout un projet qu'il a sur un très long temps, voilà. Et c'est des choses qu'il veut partager avec nous. Alors il peut le faire par des songes, des rêves pendant la nuit, n'est-ce pas, quand on dort. On s'est dit dans Job, hein, au chapitre 33, versets 14 et 15, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Et bon, moi j'ai toujours pensé, je me trompe peut-être, hein, que ben quelquefois on a besoin d'être endormi pour que notre intelligence soit au repos, qu'elle ne dérange pas ce que Dieu a à nous dire, qu'on ne mêle pas les pensées humaines à ce que Dieu veut nous dire, et qu'on ne soit pas là à interpréter, à bloquer par nos pensées humaines. Quelquefois ça peut être ça. Ou alors ça peut être aussi parce que c'est urgent, parce qu'il y a une urgence, un avertissement que Dieu veut donner, parce qu'il doit se passer quelque chose d'urgence. Ça s'est passé notamment quand il y a eu plusieurs avertissements pour protéger Jésus, d'abord pour que Joseph accepte la conception de Jésus par la puissance du Saint-Esprit, hein, c'est assez énorme, et ensuite pour le protéger, pour que Joseph emmène Jésus et Marie en Égypte, il les ramène ensuite quand le danger était passé, pour le protéger par rapport au mage qui était censé repasser chez Hérode, voilà. Donc ça peut être des choses comme ça aussi. Mais quelquefois c'est à beaucoup plus long terme. Vous connaissez bien le songe de Jacob quand il a vu l'échelle. Donc il connaissait pas encore vraiment Dieu. Il était le fils d'Isaac, mais il connaissait pas encore vraiment Dieu. Et donc il a vu cette échelle entre la terre et le ciel et les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et ce qui est beau, c'est qu'ils montaient d'abord. Donc ça veut dire qu'ils étaient d'abord en bas. Ils étaient d'abord sur la terre, en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils montaient et ils descendaient. Et quand ils descendaient, ils ramenaient des choses du ciel sur la terre. Donc il a eu cette révélation. Et Dieu était en haut. Dieu lui-même, l'Éternel, était en haut de l'échelle. Et il lui a parlé personnellement. Il lui a rappelé les promesses qu'il avait faites à Abraham et puis ensuite à Isaac. C'était vraiment, il le reconnaissait comme la descendance d'Abraham et d'Isaac. Et il lui a dit, tout à fait personnellement, donc c'est dans Genèse 28, les versets 12 à 15, mais le verset 15 est particulièrement intéressant parce qu'il lui dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, puisque Jacob était en train de partir chez Laban. Car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je te promets. Donc c'était vraiment un engagement merveilleux de Dieu. Et le problème, c'est que il a fallu vraiment beaucoup de temps pour que cet engagement soit concrétisé. Et entre-temps, Jacob, il a vécu toutes sortes de choses pas faciles du tout. Et il a dû garder cette promesse de Dieu qu'il avait reçue en songe et continuer à la proclamer et y croire, même s'il voyait tout le contraire dans sa vie. Et ça peut être ça aussi, les promesses de Dieu. Ça peut être aussi à long terme. Et il y a une persévérance qui nous est demandée. Et ça a été pareil pour Joseph, l'un des fils de Jacob. Dans Genèse 35, à partir du verset 5, etc., on voit les songes de Joseph. Donc Joseph a eu des songes. Et il a interprété un peu avec sa sagesse humaine. Hein. Il a cru que ces songes signifiaient qu'il allait dominer sur sa famille, en fait. Hein. Et qu'il allait donc régner sur eux. Mais en fait, c'était plus que ça, c'était un plan plus vaste. Dieu était en train de lui dire, je vais te donner une autorité, et à cause de cette autorité, tu pourras sauver ta famille, en fait. C'était pas dominer pour écraser, c'était pour sauver sa famille, de la famine. Et donc quelquefois, quand on reçoit des rêves de Dieu, on a besoin d'avoir l'interprétation de Dieu lui-même. On a besoin de lui demander la signification précise. c'est pas toujours ce que les mots disent d'un coup, ou ce que les images disent au premier abord. Ça peut être plus profond, plus vaste, plus, voilà, un peu caché. Donc on a besoin d'attendre, de questionner le Seigneur, de prier sur ces choses qu'on a reçues jusqu'à ce qu'elles s'éclairent. Et quelquefois, ça peut prendre très longtemps. Parce que Dieu n'est pas pressé, il a une autre image du temps que nous. Voilà, donc ça, c'est les songes. Mais bon, les rêves de Dieu, c'est pas que les songes, c'est aussi les pensées qu'il nous donne. Si on est à son écoute, il va nous partager ses pensées, parce qu'il veut nous faire, Jésus l'a dit, il veut nous faire co-ouvriers avec lui. Et donc, il va nous partager ses pensées. Et ça peut être, donc ce sont les rêves de Dieu qu'il veut nous partager, ce sont les désirs profonds de Dieu, mais quelquefois, avec ces désirs, il y a toute la stratégie pour que ces désirs puissent s'accomplir, pour que ces rêves puissent s'accomplir. Parce que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir, mais bon, il y a une stratégie pour ça. Et donc, on sait bien que Dieu a un plan de salut pour chaque personne, il a prévu chaque personne avec un plan précis, pas seulement que la personne soit sauvée, mais il a un plan précis pour la vie de la personne. Et il nous crée chacun d'entre nous avec déjà un projet bien précis. On sait bien ça. Mais quelquefois, il aime inclure quelqu'un dans ce plan. Et donc, il va partager à quelqu'un d'autre un projet qu'il a pour une personne, un rêve qu'il a pour une personne, et puis cette personne pourra bénéficier de notre action, notre prière, ça peut être l'action ou la prière. Alors j'ai un exemple bien précis, c'est Naaman le Syrien. Donc il était Syrien, il faisait pas partie du peuple d'Israël. Et il était lépreux. Et la petite servante de Naaman, enfin de sa femme ou de Naaman, c'est les deux, c'était une petite juive, une petite jeune fille juive. Et elle savait qu'en Israël, il y avait le prophète Élisée, et qu'il avait déjà guéri des personnes, voilà, qu'il avait cette puissance de Dieu de guérir les personnes. Et donc, elle a commencé à rêver que Naaman puisse être guéri. Elle s'est pas préoccupée, il n'est pas d'Israël, donc il peut pas être guéri. Non, elle a commencé à rêver. Et Naaman est peut-être la seule personne de l'époque, ailleurs qu'en Israël, qui a été guérie. Mais voilà, cette petite juive a commencé à rêver à ça, et elle en a parlé. Son rêve l'a amenée à parler à la femme de Naaman. Elle lui a dit, en Israël, il y a un prophète qui peut guérir le maître. Voilà. Et donc Naaman, après bien des péripéties, Naaman a été guéri. Et sans doute, ça l'a touché lui, bien sûr, mais sans doute ça a touché d'autres personnes aussi. Il a reconnu la puissance de Dieu, mais d'autres personnes aussi ont été touchées au travers de ça. Donc nos rêves peuvent nous amener quelquefois aussi à l'action. C'est déjà la prière, c'est sûr, mais ça peut nous amener aussi à l'action. Et Dieu intervient par des songes, il nous partage ses rêves pour les personnes, mais les personnes, quand il nous crée, il nous place aussi dans une famille. Donc il a un plan pas seulement pour la personne, c'est déjà bien, mais il a un plan aussi pour notre famille. Donc il nous partage ses rêves aussi pour notre famille. Et notre famille devient, en grandissant, une famille de familles. Ensuite, ça forme des clans, ensuite, ça forme des tribus. Et pour les tribus aussi, Dieu a un plan. Donc Dieu, ça ne le dérange pas de travailler à plusieurs niveaux. Il travaille pour les individus, mais aussi pour les familles, pour les tribus. Et au-delà des tribus, c'est la nation qu'il veut toucher. Et le grand rêve de Dieu, c'est que son royaume vienne sur la terre. C'est ça qu'il nous a demandé de prier dans le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Et donc pour ça, Dieu a une stratégie. Il a commencé par choisir Abraham. Et c'est vraiment un choix délibéré de Dieu. C'est pas un hasard, c'est vraiment un choix délibéré de Dieu. C'est dit dans Genèse 18 au verset 19. Et Dieu a révélé son plan à Abraham, ça c'est dit dans Genèse 12, versets 2 et 3, alors je vais paraphraser un peu. Abraham, je te choisis, a dit Dieu, de toi sortira une grande nation, et cette nation sera une bénédiction pour tous les autres peuples de la terre. C'est pas les familles, comme dans ma Bible et peut-être dans la vôtre, mais c'est les peuples de la terre. Et donc, au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bah, Dieu a créé le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël, donc, devait être un modèle de Dieu, une bénédiction pour tous les autres peuples de la terre. Bah, on va voir comment. Mais bon, ça s'est pas fait de la manière dont nous, on penserait que ça devrait se faire, quoi. La première chose, c'est que Joseph a dû aller en Égypte, et pas n'importe comment, il a dû aller en Égypte comme un esclave. En Égypte, il a été mis en prison. Bon, donc ça commençait pas très très bien. Mais bon, le plan de Dieu s'est accompli, et Joseph est devenu une sorte de premier ministre en Égypte, et alors sa famille l'a rejoint, parce qu'il y avait une famine en Israël, donc sa famille l'a rejoint en Égypte, il y a eu des péripéties aussi. Elle a vécu ensuite en Égypte, et elle vivait bien, mais ensuite, il y a eu un autre pharaon qui a régné sur l'Égypte, et ce pharaon-là ne connaissait pas Joseph. Il a commencé à être jaloux du peuple d'Israël, et en même temps à le craindre, hein, craindre qu'il prenne trop de place et qu'il le supplante, donc il l'a mis en esclavage. Et les Hébreux, donc les Israélites, ont été esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Imaginez, pendant 400 ans, c'est long, hein. Donc ils ont eu tout le temps de se dire, mais Dieu a oublié ce qu'il nous a promis. D'accord, les promesses étaient répétées de père en fils, hein, il les connaissait, les promesses de Dieu, mais le peuple grandissait, et les promesses de Dieu n'avaient pas l'air de s'accomplir. C'était long. Pendant ces 400 ans, ils ont dû persévérer, continuer à croire aux promesses de Dieu. Et ensuite, quand Dieu a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, quand il les a emmenés dans le désert, ben, ils n'étaient pas une nation. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient jamais eu de territoire à eux. Ils étaient juste une famille quand ils sont arrivés en Égypte. Ils s'étaient jamais gouvernés eux-mêmes en tant que nation. Maintenant, ils étaient juste un groupe de tribus, puisqu'ils s'étaient bien développés, hein, mais ils n'étaient pas encore une nation. Il a fallu que Dieu leur enlève leur mentalité d'esclave et qu'il leur donne vraiment à la place, hein, l'échange, le fameux échange que Dieu aime tant faire, la mentalité de peuple libre. Il a fallu qu'ils réalisent qu'ils étaient un peuple libre. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a fallu 40 ans, parce qu'il a fallu qu'il y ait une autre génération qui naisse dans cette liberté, qui naisse en ayant la conscience qu'ils étaient un peuple libre. Et ça, ça changeait tout. Parce qu'un peuple libre, il peut rêver. Tant qu'on est esclave, ben notre rêve, c'est d'être libre. Ça va pas tellement plus loin que ça. Hein. Mais une fois qu'on est libre, ben on a des plus grands rêves. On peut jouir de cette liberté. Et donc c'est cette nouvelle génération qui était née dans la liberté, eh ben a commencé à rêver, à rêver avec Dieu, à rêver. Et puis le rêve de Dieu, ben c'était justement cette nation qui allait être une bénédiction pour les autres nations, qui allait montrer le gouvernement de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en fait, pendant qu'ils étaient dans les tentes, dans le désert, là, bah Dieu était aussi avec eux dans les tentes. Il y avait une tente en plein milieu du camp, et c'était le tabernacle de Dieu. Dieu habitait au milieu de son peuple, et non seulement il habitait, mais il leur avait donné une loi d'amour. Il régnait sur eux, il régnait aussi par la justice, hein. Il y a eu des choses aussi qui n'étaient pas toujours agréables pour Israël, parce que Dieu régnait. Il régnait vraiment. Et il a fait d'eux vraiment non seulement une nation, mais une nation où il y avait le royaume de Dieu. Où Dieu régnait. Son règne de justice. Et il a, donc son règne, ça consistait, entre autres aussi, à amener les tribus à s'accorder ensemble. S'accorder pour se soumettre à Dieu. S'unir pour être soumis à Dieu. Et ça a fait d'eux vraiment une nation. C'est pas des tribus séparées, mais c'est des tribus qui étaient unies ensemble devant Dieu, qui adoraient Dieu ensemble et qui obéissaient à Dieu ensemble. Parce qu'en fait, les nations, ben, on est tous aussi des, bon, on n'est pas en Afrique, mais on est quand même en France, hein, des groupes de personnes qu'on pourrait appeler des tribus et qui ont des intérêts différents. Donc il peut y avoir des tensions, des rivalités, des discordes. Voilà, et ça peut aller loin. Hein. Dans certains pays, ça va même jusqu'à la guerre civile hein, ou jusqu'au génocide. Enfin, ça peut aller vraiment très très loin. Et les nations ont besoin d'être sauvées. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, allez dans toutes les nations, il leur a dit ça dans la fameuse grande commission, hein. Allez dans toutes les nations parce que toute autorité et tout pouvoir m'ont été donné, à moi Jésus, et faites de toutes les nations des disciples. Faites pas des individus, mais faites des nations, des disciples. C'est-à-dire ce que Jésus voulait dire, c'est amener les tribus de votre nation à s'unir, à se soumettre ensemble à la Seigneurie de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça qu'ils pourront être une nation unie. Et c'est ce que Dieu veut pour la France. Alors Dieu nous donne des rêves pour nous-mêmes déjà, mais aussi pour notre famille, pour notre tribu, le groupe de personnes auxquelles on appartient, ça peut être notre église, ça peut être autre chose, hein, voilà, pour notre ville, etc., notre région, et pour notre nation, pour la France. Dieu nous donne des rêves. Et ces rêves, ben, on en est responsable quelque part. Enfin, responsable de savoir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va continuer à porter ces rêves, y croire, donc les prier, les proclamer, et puis chercher la stratégie de Dieu par rapport à ces rêves. Voilà. Donc, bon, l'histoire d'Israël est vraiment intéressante parce que elle nous parle beaucoup, nous, en tant que Français, hein. Après le temps des juges, les Israélites ont voulu être comme les autres nations. C'était un peu gênant pour eux d'être une nation à part, hein, qui avait le royaume de Dieu. Là, ils se sentaient un peu différents. Ils ont voulu être comme les autres. Ils ont rejeté le royaume de Dieu pour avoir des rois humains à la place, au lieu des juges. Et non seulement ça a été un terrible péché contre Dieu, là, mais en plus ça a été vraiment un désastre pour Israël. Parce que les rois humains, ben, ils règnent avec leur sagesse humaine. Donc voilà, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit de la corruption, des manipulations politiques, des assassinats, des guerres civiles, toutes sortes de problèmes. Et dans toute l'histoire d'Israël, ben, il n'y a pas eu beaucoup de bons rois. Et le roi David a été un grand roi, lui, parce que il avait le cœur de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Et ça voulait dire qu'il était humble, qu'il laissait Dieu régner, que lui, il était juste le serviteur de Dieu. Mais ça voulait dire aussi qu'il avait ce cœur pour toutes les tribus. Pas seulement pour sa tribu à lui. David, il était de la tribu de Juda. Donc, bon, il aurait pu ne s'occuper que de la tribu de Juda. Mais non, Saül était de la tribu de Benjamin. Et David, donc, ensuite, après la chute de Saül, il s'est occupé des restes de la tribu de Saül, de la famille de Saül, il s'est occupé, alors qu'ils étaient des Benjaminites, hein, ils n'étaient pas de la tribu de Juda. Donc il avait à cœur toutes les tribus, il n'a opprimé aucune tribu. Et quand David a été proclamé roi, ben, toutes les tribus d'Israël sont venues le proclamer roi, sont venues à ce moment-là. Ça c'est dit dans 2 Samuel chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël sont venues. Alors, c'était pas le cas pour les autres rois, hein. Là, ils sont venus s'assembler à Hébron pour le faire roi. Ensuite, bon, la suite de l'histoire d'Israël. Après Salomon, Israël a été divisé. Parce que bon, là, les gouvernements humains, bah, ça produit aussi les divisions. Chacun qui cherche son propre intérêt, et donc ça produit aussi les divisions. Il y a eu les 10 tribus du Nord qui se sont séparées des 2 tribus du Sud, qui est Benjamin. Et ces 10 tribus du Nord n'ont pas eu un seul bon roi. C'était vraiment des rois qui faisaient que de l'idolâtrie. Et le 7e d'entre eux, ça a été le roi Akab. Il a été le pire de tous. Lui, il a vraiment établi un culte à Baal et à Astarté. Et bon, ça me fait penser quand même à l'état actuel de la France. Hein. Je suis désolée, on peut vraiment faire un parallèle avec ce qui se passe en France et dans pas mal de pays. Donc Akab avait établi un culte idolâtre, et ça avait provoqué bien sûr la colère de Dieu, mais Dieu n'avait pas abandonné pour autant son plan pour Israël. Dieu ne change pas d'avis, même si on fait tout le contraire de ce qu'il veut, et de génération en génération, il ne change pas d'avis. Ses rêves, c'est pas juste des utopies et puis on les abandonne si ça marche pas. Non, il ne change pas d'avis. Il savait d'avance ce qui allait se passer. Il n'a pas abandonné son plan, il n'a pas renoncé à son plan pour Israël. Alors du coup, il a envoyé Élie annoncer, mais bon, c'était pas très drôle, annoncer un jugement. Eh oui, annoncer qu'il n'allait pas pleuvoir pendant 3 ans. Et à l'époque, c'était terrible. Pas de pluie pendant 3 ans. Comme toute l'économie dépendait de l'agriculture, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait que l'agriculture. Ben, pas de pluie pendant 3 ans. Après la première année de sécheresse, il n'y avait plus de récolte. Toutes les récoltes perdues. Après la deuxième année, ben, le bétail était mort. Il n'y avait plus d'animaux. Après la troisième année, ben, les hommes commençaient à mourir en grosse quantité. C'était vraiment terrible. Et après ces 3 ans, Élie est revenu, donc, à Cap que la pluie allait revenir. Mais là, il y a eu vraiment une confrontation de puissance. Parce que Akab n'a pas lâché ses 3 ans, ça n'avait pas suffi à briser son désir de régner, mais de régner à sa manière à lui. Donc il y a eu une confrontation de puissance. Et il fallait que tout le peuple en soit témoin. Donc Élie a demandé, toujours conseillé par Dieu, Élie agissait vraiment avec la puissance et le conseil de Dieu, du Saint-Esprit. Il a demandé à ce que tout le peuple d'Israël se rassemble. Donc c'était sur le mont Carmel. Tout le peuple est venu. Et Élie, ce jour-là, il a dû confronter 3 groupes de personnes. Et c'est aussi ce qu'on doit faire dans nos nations, donc en France en particulier, en tant que serviteur de Dieu, on est aussi amené à faire ça. Pas forcément nous personnellement, mais bon. Voilà. Donc, le premier groupe de personnes qu'il a dû confronter, c'est Akab et son gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir politique. Deuxième groupe, c'est les prophètes de Baal et d'Astarté, c'est-à-dire le pouvoir religieux dans le sens de la religion établie, la religion qui s'est éloignée de Dieu, en fait, qui n'a plus la parole vivante. Donc, ça peut être les responsables religieux, mais ça peut être aussi les chrétiens qui vivent sans la puissance vraiment du Saint-Esprit dans leur vie, quoi. Je parle pas d'être charismatique ou pas, parce qu'il y a des non charismatiques qui le sont dans les faits et qui croient ne pas l'être, j'en connais. Voilà, donc c'est pas d'étiquette, voilà, Dieu connaît le cœur. Et puis le troisième groupe, c'était le peuple d'Israël, et en particulier les personnes d'influence dans le peuple d'Israël, les personnes qui allaient changer la société, qui allaient l'amener à revenir dans les voies de Dieu. Donc Élie, on s'attendrait à ce qu'il s'adresse d'abord à Akab, non, il s'est adressé d'abord au peuple. Il a demandé au peuple de choisir entre Dieu et Baal. Il a demandé au peuple de prendre position, parce que si le peuple prenait une décision ferme, alors les responsables politiques et religieux étaient bien obligés de s'incliner. Donc il s'est adressé au peuple, mais le peuple n'a pas pu prendre la décision, parce que ils en étaient pas capables, ils avaient besoin de voir la puissance de Dieu. Ça faisait trop longtemps qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, et voilà, ils avaient besoin de voir la puissance de Dieu. Alors Élie a laissé toute la journée, là aussi il a fallu de la patience, il a laissé les faux prophètes offrir leur sacrifice à Baal. Ils ont invoqué Baal toute la journée. Il y a eu beaucoup de spectacles, beaucoup d'esbrouf, je dis. Mais Baal ne s'est pas manifesté, pas le moins du monde. Et en fin de journée, Élie, il a rassemblé tout le peuple autour de lui. Il a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, et pour le rétablir, il a pris 12 pierres. Or, à l'époque, les 10 tribus du nord étaient séparées des 2 tribus du sud et il y avait la guerre civile entre eux. Il a pris les 12 pierres parce que chaque pierre devait représenter une des tribus et il fallait pas qu'il en manque une. Élie avait vraiment ce cœur, c'était le cœur des dieux, hein, d'avoir les 12 tribus qui ensemble rebâtissent l'autel de l'Éternel. Et c'était ça que représentaient les 12 pierres. En fait, c'est le cœur de Dieu d'établir à nouveau Israël comme la nation de Dieu, la nation unie devant lui, la nation où le gouvernement de Dieu est une lumière et un modèle pour toutes les autres nations, pour que toutes les nations puissent être disciples de Jésus, qu'elles puissent être soumises à un seul roi, le roi des rois. C'est vraiment le cœur de Dieu. Et donc, Élie, après avoir fait ça, donc il a fait tout ce qu'il fallait faire, hein. Il avait vraiment cherché auprès du Seigneur ce qu'il fallait faire, hein. Donc il a inondé l'autel, enfin, vous pouvez lire dans 1 Roi 18, tout ce qu'il a fait, c'est assez impressionnant. Il fallait que ce soit manifeste que c'était Dieu qui agissait, quoi, que c'était un vrai miracle. Ça pouvait pas être du tout quelque chose de naturel, un éclair, non. C'était vraiment Dieu. Et ensuite, il a fait la prière, peut-être la plus courte et la plus puissante à la fois. Il a, donc après avoir fait tout ce que Dieu lui avait demandé, avoir préparé le sacrifice vraiment comme Dieu lui avait demandé, donc il s'est avancé, il a dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et alors, le feu de l'Éternel est tombé, et voilà, tout Israël s'est prosterné, a reconnu la puissance de Dieu, et bon, ensuite, évidemment, le pays a été changé. Ils ont tué tous les prophètes de Baal et il y a eu des vrais changements. Hein. Il y a eu un changement national. Leur cœur avait été changé et du coup, toute la nation d'Israël a été changée. Et pendant plus d'une génération, elle est devenue à nouveau ce modèle pour les autres nations. C'est ça l'esprit et la puissance d'Élie. Et en fait, dans Malachie, vous savez, hein. On a déjà souvent cité ces versets de Malachie, et donc c'est à la fin du livre de Malachie, donc tout à fait à la fin de l'Ancien Testament, enfin de l'Ancienne Alliance. Malachie 4, versets 5 et 6, donc c'est une prophétie qui dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, et on sait qu'on s'en approche de plus en plus, hein. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de jugement. » Alors, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais une interprétation que je vous soumets, c'est que, bibliquement, les pères, eh bien, quand il est parlé des pères dans la Bible, hein, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et bibliquement, toujours, les enfants, ben, ce sont les enfants d'Abraham. Les enfants des pères, donc d'Abraham d'abord. C'est-à-dire, bien sûr, les Juifs et les Arabes, les enfants d'Isaac et d'Ismaël, mais aussi tous les croyants des nations qui sont enfants d'Abraham par la foi. Donc voilà, c'est à nous tous, à tous les croyants, que Dieu veut, enfin, ramener nos cœurs vers les pères. Et ben, ça signifie justement réaliser à nouveau qu'on est tous ensemble, tous les croyants, de quelque origine qu'on soit arabe chrétien, juif messianique, juif non messianique, voilà, ou qu'on soit chrétien des nations, de toutes les dénominations possibles, tous les vrais croyants, ben, Dieu veut faire de nous une grande nation, bon, d'abord dans chaque nation, mais il veut aussi ensuite faire monter toutes les nations à Jérusalem pour adorer ensemble. Voilà. Donc en fait, c'est comme si Dieu voulait faire de nous une seule grande nation. Mais ça commence déjà en France. Et donc, Dieu nous donne veut nous donner, à nous de la recevoir, de la chercher, de la désirer, de la recevoir, il veut nous donner l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie pour justement amener ces choses avec le conseil de Dieu. Ça commence par relever l'autel de l'Éternel, relever le tabernacle de David. Et ça commence par le faire ensemble, pas chaque église dans son coin, mais ensemble, les dénominations ensemble. Alors je sais pas comment Dieu veut faire, c'est tellement énorme, mais je sais que quand Dieu a un plan, eh ben lui il sait comment il veut faire, et c'est ça l'essentiel. Donc qu'on puisse vraiment le chercher, et puis croire vraiment que Dieu a ce plan pour nous, pour notre famille, pour notre tribu, pour notre nation, et pour toutes les nations, et pour Israël. Allez. Et que Dieu va mettre en œuvre son plan. Ses rêves, c'est pas juste une utopie, il va les concrétiser, il va les leur permettre de prendre vie. Mais il veut qu'on soit participants, alors qu'on puisse vraiment chercher sa face ensemble pour trouver ensemble sa stratégie, et voilà. Déjà, à tous les niveaux. En fait, Dieu fait tout en même temps. Ça le dérange pas d'en même temps s'occuper d'une personne, d'une famille, d'une nation. Il fait tout en même temps. Voilà, donc on puisse vraiment, participer à cette restauration de l'autel et ensuite être ce sacrifice vivant sur l'autel. Vraiment donner notre vie au Seigneur pour qu'il puisse faire ce qu'il veut au travers de nous. Ça peut être nous amener dans l'action, ça peut être nous amener dans la prière, ça peut être toutes sortes de choses. Dieu sait ce qu'il veut faire.